Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Là, au bout du foot, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue, 20h32 sur Mon Paris FM, très heureux d'être avec vous en votre compagnie encore une fois pour parler foot, au bout du foot 100% concret aujourd'hui, hein. Comme souvent, on a des amis autour de la table avec nous pour alimenter les débats. Signaler également que notre ami Léonard et Jason Lindor sont du côté de la partie technique. Et puis, je vais commencer par saluer notre ami Philippe Carnu, hein, qui vient de présenter Au bout du foot, ouais. Et qui enchaîne, mais il est bien reposé.
Mon Paris Sport a chopé une forme.
Il revient de la Guadeloupe, là, il est en pleine forme. Ouais. Il est tout bronzé. Ouais. Comment ça va?
Ça va très bien, Malik.
T'as passé de bonnes vacances?
Ah, superbe.
Ah, mais je t'ai remplacé lundi.
Ah, mais je sais bien, je sais.
C'est
ça
facile,
s'est très bien passé.
Facile,
la canne est bien lancée comme ça. Hein.
Voilà. N'est-ce pas, bienvenue à
très
toi,
bien,
mon grand.
En tout cas.
Également avec nous, le supporter justement sénégalais qui est tout content avec la victoire justement des hommes d'Aliou Cissé, 3-0 aujourd'hui même. Donc on parle de la canne. Hein. Salut Abou. Amadou.
Amadou, ouais.
Abou, il arrive.
Bonsoir, bah ouais, super content là. Les 3 points, enfin avec les résultats que vous connaissez. Voilà, je peux être que content.
Et à noter aussi qu'il y a quelques minutes, justement, le Cameroun et la Guinée hein, se sont tenus en échec, un but partout. Hein, et signaler que la Guinée a joué une mi-temps à 10 contre 11. Et ma foi, ils ont quand même réussi à tenir le Cameroun en échec, hein, d'une certaine façon. Mmh. Salut Alfred.
Bonsoir.
Ça va?
Je vais très bien.
T'as passé un bon week-end aussi?
Ouais, un peu fatigué, mais ça va.
C'est vrai, on était là. Hein. On a couvert justement la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture de cette CAN. Hein. Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau, hein, avec 2-0 pour le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et puis, ma foi, la CAN continue. Hein. D'ailleurs, ça ne fait que commencer. Et puis, on a un nouvel ami avec nous. Hein. Salut Quentin.
Salut tout le monde.
Ça va bien?
Ça va. Très, très bien.
Ah,
très
tu appartiens au collectif hein, Rond Central.
Rond Central, oui, c'est ça.
De notre ami Darus, entre autres aussi. Hein.
C'est ça.
On salue d'ailleurs.
YouTube, une chaîne YouTube sur YouTube et bah, très content d'être là pour la première.
Bah écoute, t'es le bienvenu. Hein, t'es
merci.
Le bienvenu. Et puis, tout de suite, les amis, on va dérouler le sommet.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 15 janvier 2024, la question Au bout du foot. Ligue 1, Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A, quel championnat vous attire le plus en Europe? 30 secondes chrono, quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes chrono? Olympique Lyonnais, le cauchemar est-il de retour? La confirmation de Sage est-elle le bon choix pour le club? Le dossier Au bout du foot, Olympique de Marseille, 12 années sans titre. L'Olympique de Marseille est-il encore un grand club? Nous posons la question. Quel choix pour quel résultat? Le Paris Saint-Germain, selon les infos de l'équipe, Luis Enrique douterait de Colomoigny et de Ramos. Doute justifié? On pose la question. Foot espagnol, le Barça n'y arrive vraiment plus. Qui est responsable? Les dirigeants, les joueurs, l'entraîneur? Au bout du foot, répond. CAN 2023, après 3 journées, quelles sont vos impressions générales sur les premiers matchs de cette 34e édition de la CAN? Le point avec notre correspondant sur place en Côte d'Ivoire. Au bout du foot du 15 janvier, bienvenue.
Et ainsi, voici donc dressé le sommaire de ce 15 janvier 2024. Au bout du foot, les amis, vous connaissez la mécanique. Hein. On va tout de suite et maintenant enchaîner avec la question au bout du foot. C'est parti. La question au bout du foot. On va commencer par Amadou.
Oui.
La Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Quel championnat vous attire le plus en Europe, Amadou ?
Alors, quel au singulier ou au pluriel ?
Au singulier.
Ouais, singulier. Bon, singulier, on va dire quand même Première Ligue.
On va compliquer la tâche quand même.
Ouais, Première Ligue quand même. Voilà, Première Ligue par rapport à l'intensité, on voit toujours des matchs de fou. Il y a toujours des scénarios incroyables. Les meilleurs attaquants aussi sont là-bas en général. Même dans les petites équipes qui ont des budgets autant presque que Paris Saint-Germain ou des trucs comme ça peuvent acheter des.
Le Paris Saint-Germain a un gros budget, cela.
Ouais, mais on se dire qu'en première ligue, même les petites équipes peuvent acheter des très bons joueurs. Parce qu'ils ont l'argent, quoi, pour les prendre, et ça nous fait du spectacle.
La même question pour toi, mon cher Philippe.
Bah, je pense qu'on va tous être d'accord autour de la table. Hein. Je crois que c'est de très loin la Première Ligue. Hein.
Tiens, je vais demander déjà à notre ami Léo d'appeler Stéphane Desenclos.
C'est le meilleur championnat. Hein. Et puis en plus, c'est un championnat, effectivement, il y a beaucoup de buts, il y a des matchs spectaculaires et des équipes surtout qui sont toujours tournées sur l'offensive. C'est ça qui est passionnant dans ce championnat. Et je crois qu'il n'y aura pas photo autour de la table. C'est de très loin le meilleur championnat actuellement d'Europe.
Alfred, même question pour toi dans le micro, s'il te plaît. La Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Quel championnat vous attire le plus en Europe ?
Je pense que je rejoins les deux collègues qui ont parlé en premier. La Première Ligue domine le championnat. Au niveau, ma foi, d'entrée des stades, au niveau de la manne financière, donc quelque part, c'est beaucoup suivi. Après, je dirais simplement qu'il est suivi par la Liga espagnole, si je ne me trompe pas. Suivi de championnat allemand et de la Serie A, plus en dernier, la Ligue française de football.
Et donc, tu classes notre Ligue 1 en dernier, quoi. Comme ça, facilement, comme ça.
C'est pas qu'elle n'est pas suivie, mais bon, quoi, voilà.
Ça reste moyen quand même. Hein. Ça reste moyen comme championnat.
C'est ton classement dans tous les cas.
Il y a déjà plus de suspense, tu vois.
Même question pour notre ami Quentin.
Moi, je vais rejoindre les collègues autour de la table, je veux dire la Première Ligue. On l'a dit, l'intensité dans les matchs, c'est pas dans tous les championnats qu'on a l'occasion de voir ça. Puis aussi beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. C'est un championnat où tout est possible. On voit des petites équipes venir battre des Manchester City. Je pense par exemple à Southampton l'année dernière où une des seules équipes a gagné 2-0 contre City alors que plus tard ils seront champions d'Europe et champions d'Angleterre. Et enfin je dirais aussi la concurrence. C'est un des seuls championnats où pour le titre, on a vraiment une bataille, contrairement à la Ligue 1, la Serie A ou même la Liga. On se rappelle de la saison notamment où City avait terminé avec 98 points et le deuxième avec 97 points. Donc, je pense que c'est un bon argument aussi pour le mettre tout en haut.
Oui, tu voulais compléter quelque
chose. Après, il faut retenir certaines choses, c'est que malgré que le Real ait gagné 14 titres, ben, quand on rassemble tous les titres gagnés, l'Angleterre est premier par rapport au nombre de titres gagnés dans l'ensemble. Donc quelque part oui, ça montre aussi combien de fois ce championnat est beaucoup suivi. C'est très important à souligner.
On va saluer l'arrivée de notre ami Eladia. Eladia, la question est posée, la question au bout du foot. La Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Quel championnat vous attire le plus en Europe? Je vais te laisser te poser. On va justement faire intervenir juste avant notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr. Salut Stéphane.
Salut les amis,
ça va? Bonsoir bien. À tout le monde. Ouais, passé un bon week-end?
Salut.
Super, super week-end.
Bah si tu dis super, on te croit. Allez, on te laisse
tout,
répondre à la
question. Vendredi, samedi, tout s'est passé comme je voulais au niveau du foot. Pas de problème.
On va pas rentrer dans le détail en tout cas, pas pour l'instant. La Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Lequel de ces championnats t'attire le plus, Stéphane?
qui m'attire le plus. Moi, je suis très très français, donc je regarde beaucoup de français. Mais c'est, en tout cas, c'est incontestable de dire que le plus le quand même le plus attrayant d'ensemble du championnat, c'est quand même le championnat anglais, là où il y a les meilleurs joueurs, quasiment les meilleurs joueurs du monde, et que où il y a le plus d'équipes qui sont à même. J'entendais un peu ce que c'est, qui sont à même de lutter pour un titre ou pour les premières places. T'as au moins 6-7 équipes qui sont capables de jouer le haut de tableau, donc c'est vrai que c'est forcément le, je pense, le championnat le plus excitant.
Mais ça m'étonne de toi.
Bah non, mais moi c'est pas...
Non,
moi,
mais tu me parlais en... beaucoup de kick and rush à chaque fois quand on parlait de la première ligue.
Et, non, ex... non, ce que je... Moi, ma position par rapport au foot anglais, c'est que tous les matchs, il y a beaucoup de matchs qui sont pas bons, pour lesquels tout le monde s'enflamme, notamment, je parlais derrière, je suis désolé, Newcastle-Liverpool, moi je trouve pas que c'était... Ou c'était Newcastle-Liverpool, je trouve pas que c'était un super match de foot. Maintenant,
Tu parles de la dernière opposition dans le Boxing Day,
oui,
là.
Voilà, mais je parle dans l'ensemble, dans le suivi du début à la fin. On sait rarement qui va gagner avant le match. C'est très très serré entre les équipes parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent, donc des budgets de clubs qui sont 12e, 13e en première ligue. Ça vaut les budgets des 3e, 4e en France, quoi. Donc c'est sûr que le résultat, c'est toujours assez inattendu. Maintenant, dire que moi je trouve qu'on s'emballe un peu trop des fois parce que c'est de l'anglais, alors qu'on regarde une programmation, enfin un match l'après-midi entre deux équipes de milieu de tableau en Angleterre, des fois ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, selon moi. Même des fois d'autres.
La question demeure posée également à notre ami Eladj. La première ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, quel championnat t'attire le plus, Eladj?
La première ligue, sans aucun doute. Hein. C'est normal. Hein. Voilà. On voit les matchs de football, ça n'a rien à voir. Je préfère regarder un Southampton contre Leeds que regarder un match, même, j'ai envie de te dire, un Monaco-Reims en Ligue 1. Voilà, clairement. Ou que ça soit même dans d'autres championnats. Voilà, les matchs les plus attrayants sont en Angleterre. Et pour le spectacle, pour l'engagement, la première ligue.
Tout y est, l'ambiance, voilà, et tout
exactement,
ça.
Exactement, tout y est.
Merci les amis. À présent, on va basculer dans le 30 secondes chrono. 30 secondes chrono, quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes. Jingle, c'est parti. Alfred.
Pour moi, cette semaine, c'est le retour de Sancho au Borussia Dortmund qui a permis à Marco Reus de marquer. Donc pour moi, c'est un bon retour. Et que bon, ben, après le prêt, je pense qu'il va permettre au Borussia d'être renforcé.
Est-ce à dire que Sancho était véritablement pas bien du côté de Manu?
Il y a eu beaucoup de problèmes avec le coach.
Oui, voilà, c'est juste un problème de différence, je pense.
C'était pas sportif?
Non, je pense que sportif, Sancho reste un très bon joueur de foot. Après, il y a eu des différends avec Ten Hag et on sait que c'est un entraîneur qui est très dur sur la vie au quotidien. Et je pense qu'il n'a pas dû faire les efforts que le coach attendait, et malheureusement pour lui.
Il n'y a pas que Sancho, il faut reconnaître que même Cristiano Ronaldo est parti par rapport à ces différends-là. Donc quelque part, c'est quelque chose qui se voit régulièrement. Donc pour moi, son retour en Allemagne serait la bonne chose.
Ça peut
que
lui faire du bien, je pense.
Voilà, je pense.
Alors, 30 secondes chrono cette fois-ci pour notre ami Philippe Carnu. C'est parti.
Moi, c'est Griezmann qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Hein. Je pense que ça démontre la régularité de ce joueur. Peu lui faisait confiance au début de sa carrière professionnelle. Il s'est accroché, il est resté en Espagne et c'est un des meilleurs joueurs du foot français et il est justifié à travers donc sa prestation à l'Atlético de Madrid.
On est tous unanimes là-dessus, les amis. Ouais, hein,
tout à fait, surtout sur l'assiduité dans le football.
Après, on
connaît. Ouais. En plus, c'est un garçon
qui est rarement blessé.
Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ah, certainement une bonne hygiène de vie et puis une constitution naturelle au niveau de son physique qui est un atout désormais pour ce grand joueur. Qu'est Antoine Griezmann. 30 secondes chrono pour toi, Eladj.
Moi, c'est le fait marquant de cette semaine, c'est Onana. Onana qui a préféré jouer avec United et a préféré jouer le match avec United pour aujourd'hui ne pas jouer avec son équipe et qui a fait aujourd'hui un match nul, qui ont fait 1-1. Et moi, je trouve ça honteux. Moi, je trouve ça très honteux et très limite. Moi, je serais pour ces joueurs-là les réprimander et faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec la sélection nationale parce que pour moi, c'est, excusez-moi de l'expression, mais ils leur pissent à l'arrêt clairement et pour moi, c'est non tolérable.
En tout cas, tu l'as dit, hein, il leur pisse, je sais pas où, mais en tout cas, tu l'as dit.
J'ai une réaction,
Stéphane. Oui.
Oui, j'ai une petite c'est pas une réaction, c'est une précision. En fait, ce qui s'est passé avec André Onana, c'est un cas très très particulier, très difficile à résoudre. C'est qu'en fait, quand il a signé à Manchester United, il était entre guillemets retraité de la sélection, puisqu'il avait coupé les ponts avec la sélection. Donc, quand il a signé, il a plus ou moins promis verbalement à son équipe, à son entraîneur, qu'il ne partirait pas à la CAN. Après, il a été rappelé pour venir en sélection, il est retourné avec la sélection. Donc, il s'est retrouvé face à un vrai cas de conscience, c'est-à-dire qu'il a signé dans un club pour 40 millions, je crois, ou 30 millions, 35 millions, très cher. Ça aurait peut-être pas été le même prix si on savait qu'il partait à la CAN. Et il a fallu qu'il trouve un accord avec le club moral, parce qu'effectivement, il avait signé en tant que joueur qui n'irait pas à la CAN. Je n'irai pas à la CAN, parce qu'il avait coupé de la sélection. Après, il s'est rabiboché avec la sélection, sur d'ailleurs intervention du gouvernement, parce que je crois qu'il est vraiment en froid avec Eto'o, donc le président de la Fédé. Donc c'était très très compliqué. Donc effectivement, c'est vrai que c'était, on peut penser effectivement ce qu'a dit LH, hein, ça n'empêche pas forcément, mais c'est vrai que c'était très très chaud les négociations pour qu'il aille finalement jouer à la CAN. C'est l'accord qu'ils ont trouvé, en fait.
Oui, bah voilà, moi, ça ne change pas mon avis. Hein. Pour moi, à partir du moment où tu as décidé de retourner en sélection nationale, soit tu assumes, soit tu y vas dès le début d'une compétition, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui rejoint en cours d'une compétition qui veut manquer un match parce qu'il veut jouer un dernier match avec son club. J'ai jamais vu ça. C'était même mieux même qu'il renonce et qu'il dise, voilà, franchement, je m'étais engagé auprès de Manchester United et je reste avec Manchester United. C'était même mieux qu'il fasse ça, qu'il fasse comment il a fait là, hein. Franchement.
Bon, en tout cas, c'est vos avis respectifs et ça se respecte.
Non, mais moi, j'ai pas d'avis, je suis d'accord avec ce que dit Eladj. Hein. J'ai pas d'avis.
Oui, c'est l'explication que tu as apportée derrière, dans tous les cas. Merci pour ça, d'ailleurs, Stéphane, parce que c'est beaucoup plus clair désormais. 30 secondes chrono pour toi, mon cher Quentin.
Le fait marquant pour moi, c'est le retour de Kevin De Bruyne. Après de longs mois de blessure, il revient sur les terrains et il montre que c'est un joueur de classe mondiale. Un but 5 minutes après son entrée de jeu, une passe décisive magnifique. Donc, tout simplement, bon retour au roi qu'il est et j'espère qu'il pourra nous montrer tout son talent encore longtemps.
Griezmann, De Bruyne, je vais dire, c'est des cas qui font l'unanimité, hein, les amis. Il n'y a pas à redire là-dessus. Du coup, mon cher Amadou, tu vas enchaîner ton 30 secondes chrono.
Moi, j'irais pour faire Marco, mais il y en a plusieurs. Bon, il y a, j'aurais dit, Gérone qui a pas profité de l'occasion contre Almeria, qui est dernier du classement. Ils auraient pu prendre de l'avance, un peu plus d'avance sur le Real Madrid. Maintenant, on va voir s'ils vont rester sur cette cadence. Ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, le Real Madrid a un match en retard, vu qu'il jouait la Supercoupe d'Espagne. Voilà.
Quentin. On pouvait s'attendre à ce que Gérone perde des points. C'est pas une équipe qui était programmée pour jouer le titre cette saison. Alors je pense qu'ils vont perdre des points. Là, ça tombe contre Almeria, contre un adversaire qui a l'air inférieur à Gérone cette année. Mais je pense que c'est une cadence qui va être compliquée à garder pour eux. Et ce serait pas surprenant de voir le Real quand même reprendre la tête de la Liga.
Merci Quentin. Quelqu'un souhaite réagir là-dessus ?
Ouais, non, Quentin il a tout dit. Hein. Moi, clairement, moi je vois pas Gérone en deuxième partie de saison. Je vois pas Gérone accrocher la deuxième place, je les vois pas accrocher. Hein. Pour moi, ils finissent dans le top 5, c'est très très bien. C'est très très bien. Et franchement, ils ont pas une profondeur de banc assez profitable pour essayer d'aller jusqu'au bout et même pour essayer d'accrocher une place en Europe. On voit là, ils arrivent à bout de souffle. Franchement, s'ils jouent contre le Real Madrid match retour, ils vont encore perdre. Pourtant, le match aller c'était à domicile, mais le match retour, ils vont perdre sûr. Le Real Madrid vont finir champion à l'aise.
30 secondes chrono pour toi, mon cher Stéphane.
Oui, moi, ça va aller très vite, hein, parce que je voulais passer le premier, parce que je savais que j'allais me le faire piquer. C'était bien sûr le retour de Kevin De Bruyne. Il n'y a rien à dire. Il rentre à la 68e. Il y a 2-1 pour Newcastle. 2-2, il marque. 3-2, passe décisive. Et bon, mais on pourrait même rajouter un joueur, Bob... un jeune joueur lancé par Guardiola, le coaching de Guardiola exceptionnel encore. Il rentre 2-1, un but, une passe décisive.
Merci Stéphane. À présent les amis, hein, l'Olympique Lyonnais en défait ce week-end face à nos amis du Havre, 3-1. Alors est-ce que le cauchemar est de retour du côté des Gaunes? La confirmation de Sage est-elle le bon choix pour le club? C'est le débat justement qui s'ouvre à l'instant même et on va prendre les avis des uns et des autres.
Tiens, Stéphane, je vais commencer par toi.
Ouais, ben moi, on en parlait avec Philippe juste avant. Je pense que Lyon s'est vu un peu trop beau. Moi, j'étais persuadé que... Je pense que Textor a fait une énorme... bourde en prolongeant Pierre Sage jusqu'au mois de juin. Et je pense que c'est pas ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est pas ce qu'il fallait faire. Ils se sont vus arriver, sortis dans leur confort, titulaires à chaque match pour les uns. On est tombé un peu dans l'effet inverse de ce qui se passait avec Grosso.
Est-ce qu'il fallait pas lui donner la confiance justement pour donner une forme de sérénité au groupe?
Ben, c'est ce qu'il a fait, puisque là, il y a une semaine, je crois, là, il y a quelques jours, il a signé son contrat officiellement.
Justement, c'est ma question. C'est ma question. Sachant que tu dis que c'était pas une bonne chose, je veux dire, la sérénité peut-être était de mise en lui confiant de façon concrète la signature jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, tout à fait. Je pense pas, c'est mon point de vue à moi. Je pense pas que c'était une bonne chose. J'ai été d'ailleurs persuadé que Textor ne le ferait pas. Que quoi qu'il arrive, il ferait venir un autre entraîneur et qu'il ferait beaucoup de changements. Finalement, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Il y a des joueurs qui arrivent. Il n'y a pas de changement très notable dans l'effectif. Ça va être un peu obligé là avec les suspensions. Je pense qu'ils se sont relâchés. Alors, faut espérer pour Lyon que ça soit qu'un match de relâchement. Et ils se sont vus trop beaux. Et donc, je pense qu'il aurait fallu profiter. C'est bien. Il a fait son boulot pendant quelques mois, mais je pense pas qu'il a forcément les compétences pour amener le en tout cas le match le Havre Lyon, c'était pitoyable quoi.
Eladj, t'es d'accord avec Stéphane?
Non, je suis pas d'accord avec Stéphane. Vous savez déjà ce que je pense de l'Olympique Lyonnais. Ils étaient lanterne rouge et je disais qu'ils allaient se maintenir. Et je maintiens encore mes propos. Et non, moi je pense que c'est juste une défaite. Que ça soit un nouveau coach ou un ancien coach, je pense que ça ne change rien. Pour moi, Sage est l'homme de la situation. Parce que comme je l'ai toujours dit, l'effectif, ils ont un bon effectif. C'était vraiment le coach, ça n'allait pas. Parce qu'eux, il leur faut plus un accompagnateur. Contrairement, et je reprends encore exemple sur Xavi qui est un accompagnateur et qui n'est pas un coach.
On y reviendra.
Voilà, on y reviendra. Mais là, maintenant, eux, il leur faut un accompagnateur, vraiment. Et là, moi, je pense que Sage est la bonne personne pour leur remettre en confiance. Maintenant, c'est sûr qu'il va avoir des défaites. On a dit, on vise le maintien. Là, ils sont 16e, si je ne me trompe pas. Ouais. Ils jouent les barrages, actuellement. Ils jouent les barrages. Moi, je pense que voilà, une défaite, ça arrive avec deux cartons rouges. Ça arrive. Maintenant, il faudra attendre un peu plus longtemps. Je ne pense pas que dès maintenant, on peut rouvrir le débat maintenant, quoi.
Bah, moi je pense que c'est une équipe qui s'en sortira pas, contrairement à ce que disait Eladji. On l'a dit en début, je pense que quel que soit l'entraîneur qui sera dans ce club, ça sera compliqué. Bon, maintenant, le fait d'avoir gardé l'entraîneur actuel, c'est quelqu'un qui a du cru. Alors je dirais que c'est la moins mauvaise peut-être des solutions, mais je reste parmi ceux qui ne sont pas très optimistes pour l'Olympique Lyonnais. Ils ne sont pas habitués à se battre, à jouer les maintiens. Il n'y a pas de projet sportif. Sincèrement, je ne les vois pas se maintenir. Voilà. Donc pour moi, ils vont continuer à se battre jusqu'au bout pour essayer de lutter. Ils sont un petit peu trop tombés dans l'euphorie. Malheureusement, la réalité les a rattrapés.
Amadou, tu penses la même chose?
Bon, moi, je pense qu'à l'usure, ils finiront par se maintenir parce que bon, ils ont un meilleur effectif que d'autres équipes qui se maintiennent. Et bon, là, après, ça peut être un nouvel accident de parcours. Bon, là, on sortait de la trêve internationale. Bon, et le Havre, ils sont quand même costauds cette année. Eux, ils sont promus, il me semble. Et il n'y a pas longtemps, ils avaient battu 3-1 à Nice. Enfin, Nice qui a un bon effectif quand même. Donc, bon, on va dire que c'est encore un petit accident de parcours.
Tu es optimiste en tout cas pour Pierre Sage et son équipe. Oui, Stéphane ?
Moi, j'y crois pas.
Non, mais je dis, ils ont battu Nice, effectivement, le Havre. Mais faut avoir pour en parler et pour s'inquiéter, faut avoir quand même vu le match hier. Lyon, le Havre a été bien. Le Havre est d'ailleurs effectivement une très bonne équipe. Mais bon, Lyon, c'était quand même très 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 limite quoi. Et les rouges sont pas volés. Franchement, c'était très limite.
C'était compliqué, mais
Quentin, oui.
Il y a quand même un contexte dans ce match compliqué. Il y a des actions assez litigieuses qui sont pas revues par la VAR. Je pense au tacle de sur Mata qui je pense selon moi méritait rouge plus penalty. Quand on pense que c'est Opéry qui fait ce tacle et qui fait une passe décisive et qui marque après, ça peut changer beaucoup de choses. Après moi je suis pas d'accord sur le fait que, enfin moi je pense que Sage c'était une bonne décision de le garder, de le conserver. Il est arrivé dans un contexte assez chaotique et il a réussi à redresser un groupe à remettre en confiance ces joueurs-là, alors qu'ils étaient tout simplement au fond du couvre. Et quand on sait que, quand il y avait Fabio Grosso et Laurent Blanc, c'était un vestiaire qui n'était pas derrière son coach.
Il est du cru, là.
C'est ça, il est du club, directeur de l'académie.
Non, mais Quentin, là, tu es en train de me dire que Laurent Blanc et Grosso, en fait, ont été boycottés par les joueurs.
Bah, Grosso, c'est ce qui était ressorti dans la presse. C'était, les joueurs n'étaient plus derrière l'entraîneur. Ça a été l'une des raisons pour laquelle il
Blanc
était sorti.
Aussi, hein. Blanc aussi.
Blanc, c'était compliqué aussi. Et là, on a quelqu'un qui vient de l'intérieur du club, qui connaît ces joueurs-là, parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais dans cet effectif-là. Pardon. Et je pense que, tout simplement, quand on voit un effectif qui a confiance en son coach et un coach qui, tout simplement, a réussi à redonner du plaisir à cet effectif, c'était important de le conserver. Après, je pense que c'est une décision à court terme. Ce ne sera sûrement pas un coach qui s'inscrira dans le long terme. Et je pense que si Lyon se maintient, et j'espère qu'ils vont se maintenir, Textor ira chercher un coach avec beaucoup plus d'expérience. Et
ce qui veut dire quand même le fait du ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, excuse-moi, c'est que le fait que Sage soit prolongé, selon moi, ça veut dire surtout une chose, c'est un message très fort qui dit je serre les fesses et je vise le maintien. Et le meilleur qui va, déjà, je dis pas forcément le contraire, qui est peut-être le mieux placé pour arriver à se balader entre la 16e, la 15e place, grappiller des points, machin et tout, c'est ça. Et je pense que si jamais, là je dis c'était pour moi une erreur, Textor qui était peut-être 14e là après la 17e journée, s'il avait eu de l'ambition, c'est ce que moi je pensais, ce que j'ai écrit, ce qu'on a écrit sur le site et tout, ce que moi je pensais, en plus d'après les quelques infos qu'on avait, qui était plutôt pour repartir vraiment sur une base, c'est bon, on est sorti de la galère et on repart en avant. Et puis moi je pense que c'est faux de dire, surtout je pense qu'il y a quelque chose qui est faux, j'ai toujours dit la même chose depuis que à l'antenne, c'est faux de dire que Lyon a des très bons joueurs. Lyon n'a pas des très bons joueurs, parce que Laurent Blanc, s'il avait eu des très bons joueurs, il aurait fait mieux que ce qu'il a fait.
Mais Laurent Blanc, franchement, Laurent Blanc, on le compare à Pierre Sage. Laurent Blanc, c'est parce qu'il a eu une carrière de footballeur, c'est pour ça. Mais je l'ai jamais vu rien faire sur un banc. Hein. Sur un banc, en tout cas, il a jamais fait aucune différence.
Il a eu des bons résultats à Bordeaux quand même.
C'est tout.
Avec lui, c'est ça.
À part ça.
Non, les amis, on va pas.
Non, à part ça, franchement, Laurent Blanc n'est pas un grand coach. On s'arrête là. Laurent Blanc n'est pas un grand coach. Moi, en tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Et franchement, moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir maintenu Pierre Sage. Ils ont quand même enchaîné 3 victoires d'affilée et 3 victoires avec la 4.
En Coupe de France.
Voilà, plus en Coupe de France et avec la manière. Donc, excusez-moi, mais maintenant même, moi, je crois même pas qu'ils vont jouer le maintien. Ils vont essayer d'aller chercher un peu plus haut. Et moi, je me mouille et je le dis. Et on verra bien à la fin de la saison. N'oubliez pas qu'il y a 3 semaines, vous les voyez déjà condamnés. Aujourd'hui, ils sont au barrage. Et ils sont à même pas 1 ou 2 points de 2-3 places au-dessus.
Non, mais au-delà de la défaite, en fait, c'est le contenu des matchs aussi.
Oui, hein, mais c'est ce que je dis. Il y a que là, ils ont fait un match. Ils ont fait un match.
Face au Havre, hier, moi, j'ai retrouvé. Mais bien sûr. J'ai retrouvé l'Olympique lyonnais, justement, de Fabio Grosso.
Mais bien sûr,
ils étaient quasiment perdus.
Malik,
d'où le débat d'aujourd'hui.
Mais Malik, ça arrive.
Est en train de revenir.
Ils n'allaient pas faire une transformation. Là, c'est pas comme s'ils avaient enchaîné 2-3 matchs avec ces prestations-là. Ils ont enchaîné un match.
L'idée,
ça arrive.
L'idée n'est pas de dire qu'on peut pas perdre un match. On peut perdre un match, mais tu le perds comment?
Oui, c'est encore fragile, Malik. Ils sont encore fragiles mentalement. Ils sont encore fragiles mentalement, Malik.
C'est ça, c'est que c'est un effectif qui va galérer jusqu'à la fin de la saison.
Ah, mais il y en aura d'autres, des matchs comme ça.
C'est ça.
Mais c'est là où je rejoins Philippe. Est-ce que cette équipe est taillée? Je finis, Stéphane, s'il te plaît. Est-ce que cet effectif. Stéphane, je finis, s'il te plaît. J'ai pas fini, Stéphane, s'il te plaît. Est-ce que cette équipe est taillée justement pour jouer le maintien?
Moi, je pense que oui. En plus, là, il y a des noms qui sont évoqués pour le mercato. Il y a Matich, Danyuma, Benrama, il y a des pistes qui sont évoquées.
Ouais, mais ils sont pas encore là.
Non, mais
et quand bien même ils arriveraient là.
Moi, je pense que
le temps de s'adapter et tout ça.
Ouais. Je pense que c'est des pistes qui pourraient faire du bien à l'effectif. Après, comme je le dis, c'est une équipe qui va galérer jusqu'à la fin de la saison, qui, je pense, sera entre à chaque fois la 14e, 13e, 12e place et il sera jamais vraiment rassuré. Mais je les vois mal descendre, sincèrement, cette année.
Je pense que le destin de l'Olympique Lyonnais va se jouer par rapport à des équipes comme Clermont.
Voilà, c'est ça.
Et tout ça. Mais je ne crois pas véritablement en l'exploit même de cet effectif lyonnais. Stéphane ?
Et là, moi, ce que je disais, c'est par exemple, se poser une question. Ce qui m'agace, c'est quand on me dit ils ont un effectif largement pour s'en sortir. Citez-moi 3 gardiens de but de Ligue 1 qui sont moins forts qu'Anthony Lopez en ce moment.
Non mais Lopez fait une saison très compliquée cette saison et c'est pour ça qu'ils ont pris le remplaçant.
Ouais, bah peut-être qu'un nouveau coach y mettrait le remplaçant par exemple.
Bah c'est ça je pense, c'est une question à soulever. C'est vrai que Lopez depuis le début de la saison fait des prestations très discutables et je pense que ça je dois se poser la question de mettre le nouveau gardien.
C'est un enfant du cru hein.
Oui c'est ça. C'est
comme à l'image des autres joueurs. Oui. Moi je verrais pas pourquoi les autres joueurs seraient dans le dur et que Lopez serait en meilleure forme. Je ne vois pas. Pourquoi ? C'est comme les autres joueurs, pour moi, il est en méforme.
Il y a beaucoup de buts qui sont pour lui quand même cette saison. Par exemple, au Le Havre, le troisième but, je pense qu'il peut aller la chercher. Mais par rapport au match du Havre, il y a une première mi-temps très compliquée. Et par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu 20 dernières minutes. Bon, Le Havre a lâché le pied un peu, mais 20 dernières minutes. Où ils ont réussi à se créer des occasions, 3-4 occasions, ils se sont montrés dangereux. Et il y a de la qualité dans cette équipe. Forcément, les joueurs ne sont pas en confiance. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un champion du monde, Corentin Tolisso, il y a Alexandre Lacazette, Ryan Cherki. Certes, il y a des problèmes de comportement, mais il y a du talent dans ce joueur. Il n'y a pas tout à jeter. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Et j'espère pour eux qu'ils le trouvent.
On n'a pas donné la parole à Alfred pour cette question.
Je rejoins un peu Quentin dans la dernière déclaration. Quentin, il a dit il n'y a pas tout à jeter. Mais tu as cité trois noms, trois joueurs cadres. Peut-être que le problème vient des vestiaires. Moi, pour moi, Sage, il a hérité de la situation. Il apporte ce qu'il peut. Parce que je suis quand même étonné de ne pas voir Tolisso, Lacazette réagir. Parce que c'est leur ADN qui est le club. Donc c'est ça que je me demande pour que ils vont se maintenir.
Ouais, mais c'est deux joueurs en fin de course, les amis. Hein.
Oui, je comprends bien, mais après tout.
Même avec Lopez, hein.
Avant même que Lyon ne sombre, ils peuvent apporter quelque chose.
Mais c'est ce qu'ils font. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont pas 18e. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'ils peuvent aller au-delà. Hein.
Et le pire, c'est qu'on est au mois de janvier. On dit ça depuis le mois de septembre.
Moi, je pense que le problème doit être interne. Le problème doit être interne.
Philippe, il remet le couteau dans la plaie.
Non, mais c'est vrai.
Le problème, il est interne.
Au mois de novembre, octobre, on se disait que c'était impossible pour cette équipe de se maintenir aujourd'hui.
Ouais. Mais moi, je le maintiens.
Je comprends cet avis. Ouais. Mais voilà, on a vu, ils ont enchaîné une série de victoires. Il y a eu un match compliqué hier. Il faut vite se ressaisir. La Coupe de France arrive la semaine prochaine. Donc il faudra reprendre la confiance. Après je crois que c'est Rennes puis l'OM, deux gros matchs, donc il va falloir assumer sur le terrain et montrer que
donc grosso modo vous dites que Sage est l'homme de la situation, hein. On est bien d'accord, hein, grosso modo.
Pour moi oui.
Moi oui aussi.
Elle a dit, pour lui c'est catégorique.
La moins mauvaise des solutions, ouais.
La moins mauvaise. Amadou toi aussi t'es.
Non pareil parce que bon on va pas.
Excepté Stéphane.
Ouais, encore rechanger là en plus en cours de saison.
Moi je pensais que Lyon repartirait en janvier pour viser au moins la 10e place, si ce n'est même une 7e place qui était abordable, qui était à 8 places, donc avec de l'ambition, de l'envie et tout. Et ce que je vois dans les changements, ce que je vois pour l'instant, bon, on va voir effectivement s'il y a Matic et puis Ben Rabat, je crois qu'il ne faut pas rêver, je pense qu'il ne viendra pas, mais effectivement s'il y a des joueurs comme ça qui viennent, pourquoi pas. Mais je suis désolé, en dehors moi, tu t'enlèves. Pour moi, il y a un joueur de niveau. Il a dernièrement, hein, mais sinon il confirme pas qu'il doit partir vite fait. C'est Maxence Cacré, quoi. Qu'il doit vite fait partir dans un autre club, quoi.
Mais pourquoi?
Parce que lui, il a le niveau. Il est Alexandre Lacazette, par exemple.
Ah, tu me parles plus de Cherki maintenant, c'est Cacré.
Non, moi, j'ai jamais critiqué Cherki, mais Cherki.
Donc pour toi, Cherki, il est bon.
Ni bon ni mauvais, c'est un joueur, oui, c'est un joueur qui peut faire des bonnes choses, mais est-ce qu'il doit être titulaire ou pas, j'en sais rien. Je suis pas coach de Lyon, je sais pas comment faire, mais
il y a des problèmes
je
de
vois
comportement.
Pas de bons joueurs dans cette équipe, je ne vois pas de bons joueurs, à part depuis quelques semaines, parce que c'était pas le cas en début de saison, effectivement, un joueur comme Maxence Cacré. Et puis Nouama, qui est à la CAN, donc qui jouait pas au Havre, qui est un bon joueur, sinon. Fana, qui est arrivé là, il a quand même, moi il m'a fait vraiment une super bonne impression le temps qu'il a joué au Havre, mais qu'il a joué contre l'Havre, mais sinon franchement je vois pas de joueur Lacazette, faut vraiment le piquer les fesses pour qu'il avance. Tolisso c'est terminé, O'Brien c'est du grand cirque, c'est du grand n'importe quoi. Caleta-Sar peut-être, oui, Caleta-Sar peut-être, il est capable de faire des choses. Non, franchement, Lopez s'est cramé, Koumbédi, bon, il joue plus, Mata, c'est pas trop mal peut-être, mais bon, non, ça va être très très compliqué, mais effectivement, moi je suis un peu d'accord avec vous. Garder ça, ça veut dire on va terminer, on assure à terminer au pire barragiste ou éventuellement 15e. Voilà. Bah, on n'a aucune autre ambition.
On en reparle.
On en reparlera. Merci. Là, il y a effectivement à vous signaler aussi que dans le direct en Algérie, Angola, s'agissant donc de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition, on joue 5 minutes de jeu, toujours 0 but partout. À noter également aussi que le Cameroun et la Guinée ont fait match nul en but partout cet après-midi et que le Sénégal a par ailleurs dominé l'équipe. De la Gambie, 3-0. On continue justement, les amis, de dérouler le sommaire de cette émission Au bout du foot. Dans quelques instants, on va aborder le chapitre du Paris Saint-Germain. Justement, on va parler de deux joueurs qui ont été recrutés juste avant le début de la saison, Kolo Muani et Ramos. Justement, selon les indiscrétions du journal L'Équipe, Luis Enrique, le coach, douterait de ces deux joueurs-là. Est-ce que ces doutes-là sont justifiés? Ça revient juste après la pub.
Salut, c'est Malik Eudi. Amis du football, bien le bonjour. Mon Paris FM au cœur de la CAN 2023. Retrouvez-nous ce samedi 13 janvier dès 20h en direct sur Mon Paris FM pour l'avant-match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Nous serons également présents à la mi-temps et à la fin de la rencontre pour un débriefing épique de cette première opposition de la 34e édition de la CAN. À noter également que ce sera le cas pour toutes les grandes affiches de ce tournoi. À samedi 13 janvier 20h sur monparisfm.com.
Ça s'est passé dans Weekend Africain.
Pour moi, les véritables trophées, c'est dans les ventes, c'est le disque d'or, le disque de platine, double disque d'or. Là, ça, c'est un trophée. Mais le truc où on se retrouve trop sur scène, le truc où on se retrouve trop sur scène, je vais aller au bout si vous le permettez. Les trucs où on se retrouve tous sur scène.
Il va se calmer, Nolo, hein.
les trucs où on se retrouve tous sur scène, moi, je trouve ça ringard.
Ça s'est passé dans Weekend Africain.
Bah si, question directe, réponse
directe,
direct et franche.
Que t'inspire le milieu du showbiz?
Une lumière qui peut servir quand tu es armé, mais une lumière qui peut être dangereuse si tu ne l'es pas.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 15 janvier 2024, la question Au bout du foot. Ligue 1, Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A, quel championnat vous attire le plus en Europe? 30 secondes chrono, quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes chrono? Olympique Lyonnais, le cauchemar est-il de retour? La confirmation de Sage est-elle le bon choix pour le club? Le dossier Au bout du foot, Olympique de Marseille, 12 années sans titre. L'Olympique de Marseille est-il encore un grand club? Nous posons la question. Quel choix pour quel résultat? Le Paris Saint-Germain, selon les infos de L'Équipe, Luis Enrique douterait de Kolo Muani et de Ramos. Doute justifié? On pose la question. Foot espagnol, le Barça n'y arrive vraiment plus. Qui est responsable? Les dirigeants, les joueurs, l'entraîneur? Au bout du foot, répond. Cannes 2023, après 3 journées, quelles sont vos impressions générales sur les premiers matchs de cette 34e édition de la Cannes? Le point avec notre correspondant sur place en Côte d'Ivoire. Au bout du foot du 15 janvier, bienvenue.
Au bout du foot, 15 janvier, bienvenue effectivement avec Quentin, avec Alfred, avec Eladj, avec notre ami Philippe Carnu, Amadou également et puis Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr depuis le téléphone. À présent les amis, on va aborder la chronique. Quel choix pour quel résultat? On va s'arrêter justement sur le Paris Saint-Germain. Selon les infos de L'Équipe, Luis Enrique douterait de Kolo Muani et de Ramos. À noter également que Kolo Muani cette saison, c'est 20 matchs pour 7 buts. Gonzalo Ramos, c'est 19 matchs pour 4 buts seulement. Alfred, tu as le micro.
je pense que l'entraîneur lui-même ne doit pas se poser des questions parce que deux joueurs sont très différents. Colomani arrive à faire la différence tout seul, c'est quelqu'un qui joue sur le côté gauche. Ramos, il est avançant. Donc pour moi, voilà, maintenant, au niveau de l'effectif, il y a beaucoup de joueurs, donc il va falloir soit s'en débarrasser d'un des deux. Pour moi, je pense que le choix serait porté sur Colomani qui devrait rester. Voilà, parce qu'en attaque, vous avez... On a, comment on appelle ça,
Asensio, Kylian Mbappé.
Voilà. Donc voilà, il y a de la qualité. Donc pour moi, Colomani devrait rester. Voilà.
Donc les doutes sont justifiés ou pas?
En fait, moi, je pense que l'entraîneur devrait prendre une décision simple. Portera ce soit sur Colomani, c'est tout.
Est-ce que les doutes sont justifiés?
Moi, il ne devrait pas avoir de doute. Moi, il n'y a pas de doute, moi.
Oui.
Bah, lui, il les voit tous les matins. Oui, lui. Oui, oui. Bon, on retient qu'Alfred n'a pas répondu à la question. Bon, Philippe, vas-y, je te laisse répondre.
Colomani, c'est un super joueur, mais je crois que pour l'instant, sa prestation n'est pas à la hauteur au Paris Saint-Germain de sa dimension. Je crois que c'est une grosse déception. Ramos aussi. Donc, même s'il y a un choix d'attaquant, il y a Barcola, Asensio. Mais je pense que. Et puis Dembélé. Mais je pense qu'effectivement, on peut attendre mieux d'un garçon comme Colomani, qui a du talent. Et pour l'instant,
Mais il y a Ramos aussi. Hein.
Oui, mais Ramos, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Ils sont en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'eux au PSG.
Parce que là, on parle d'un entraîneur qui les voit régulièrement tous les matins. Donc certainement qu'il s'aperçoit que
il y
a beaucoup d'insuffisance au niveau de ces deux garçons-là.
Il y a beaucoup d'occasions gâchées. Il y a beaucoup de beaucoup de choses où ils sont pas.
Et d'après les indiscrétions, ils n'arrêtent pas justement de les pousser, de les faire travailler, de les encourager encore plus.
Alors est-ce qu'ils sont bien dans l'environnement du club? Ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. C'est peut-être un problème. Mais c'est certain que leur prestation, elle n'est pas à la hauteur de leur talent.
Je me souviens d'une chose, c'est qu'au début justement d'Au bout du foot, on avait évoqué justement les transferts de Colomani. J'avais moi-même personnellement évoqué justement les tentations au niveau de la capitale, hein, parce que c'est pas évident. Colomani, quand il est en Allemagne, il est plus ou moins isolé, certainement davantage concentré. Aujourd'hui, il est à Paris. Avec tout ce que ça comporte, avec un transfert aussi assez conséquent qui lui pèse sur le dos certainement. Amadou, qu'est-ce que t'en penses toi?
Moi, je dirais que pour moi, les doutes ne sont pas trop justifiés parce que c'est plus un problème de riche. Il a beaucoup d'attaquants pour peu de place. Je pense qu'il est toujours en train de chercher des systèmes. Après, il vaut mieux pas se plaindre d'avoir trop d'attaquants comme ça parce que pour les grandes échéances, ça peut servir. En Ligue des Champions.
Non, mais aucun des deux ne s'installe véritablement.
Oui.
Parce que franchement, à la limite, moi je veux dire, tu mets Mbappé à gauche et Colomani axial. S'il arrive à confirmer, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Ramos est son remplaçant directement. Mais sauf qu'il a tenté des choses. Mais régulièrement, ça ne marche pas. Au point où, aujourd'hui, Mbappé se retrouve dans l'axe. Eladj.
Moi franchement j'ai pas de doute hein. Moi j'ai pas de doute clairement. Moi je pense qu'à partir de la saison prochaine ces gens-là vont briller parce que Mbappé sera plus là. Moi je pense que ces gens-là vont briller. Faut pas oublier parce que moi je trouve qu'on est assez dur.
La conduite de
balle
de Colomani, ça te convainc?
Comment? Ça se travaille. Il a un très bon jeu de tête. Devant les cages, d'habitude, il est efficace. Hein. Là, au PSG, ok, il peine, etc. Mais maintenant, moi, je pense qu'il faut leur laisser un temps d'adaptation aussi. À chaque fois, chaque joueur qui arrive dans un nouveau club, bon, même s'il connaît déjà la Ligue 1, mais là, il la redécouvre dans un autre club où ça n'est pas l'homme phare devant. Et il faut regarder les matchs. Excusez-moi, mais il faut regarder les matchs. Moi, je regarde les matchs. Colomani n'est pas servi. Il a que des déchets. Mbappé lui met des ballons qu'il ne peut pas utiliser. Il se sert de lui vraiment comme point d'appui. Comment voulez-vous qu'il ait des stats avec un joueur comme ça à côté? Ça me fait penser un peu, j'extrapole, mais ça me fait penser un peu à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Comment Benzema avait ses stats, bien évidemment, mais vers les débuts, c'était dur. C'est pour ça qu'on essayait de ramener Higuain, on essayait de ramener d'autres attaquants pour essayer de voir comment ça se passe, parce que c'était très difficile. Mais quand tu as un joueur à côté, à gauche, qui te met 40-50 buts normal dans la saison, c'est très compliqué d'exister au niveau statistique. Maintenant, il faut le voir sur d'autres plans. C'est un combattant sur le terrain, on voit, il se donne défensivement, offensivement, il essaie toujours d'apporter au mieux. Maintenant, il n'est pas très efficace, tout ne joue pas en sa faveur, mais maintenant, moi, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps.
Donc, les performances en
en dessous justement du niveau qu'on lui demande, c'est lié au fait que Mbappé justement ne joue pas suffisamment avec Olomouani comme il se doit.
Moi je pense que même pas que Mbappé, l'équipe du PSG ne joue pour Mbappé, il ne joue pas pour Colomouani, il ne le sert pas. Moi je vois très peu de bons ballons. Colomouani dans un match, il peut très bien faire un match complet, enfin un match complet, il va jouer 60-70 minutes, ensuite il va sortir, il n'aura pas un seul bon ballon exploitable. Ça. Pour de vrai.
Pour rejoindre ce que tu dis, faut vous rappeler aussi que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui avait l'Espagne juste avant, qui jouait sans numéro 9. Est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce que le système d'Enrique est correspond à jouer avec un numéro 9 tel que peut être Gonçalo Ramos ou Colomouani. Deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'on est très dur avec eux parce que les deux, c'est 180 millions cet été, des prix de transfert qui, enfin, ils les valent pas. Je pense Colomouani 100 millions, c'est Francfort qui a bien joué le coup. Mais voilà, c'est des prix de transfert à assumer, des nouveaux statuts, des nouveaux repères à prendre, notamment pour Ramos, qui, enfin, même pour Colomouani, qui s'installe dans un gros club et qui doit vite confirmer. Moi, j'ai une comparaison avec Darwin Núñez, qui est arrivé pour 100 millions d'euros du Benfica la saison dernière. Il n'a pas fait une bonne première saison. Cette saison, il rentre dans, enfin, il joue pas tous les matchs, mais il est dans la rotation de Liverpool.
C'est
et ça
un peu mieux
bien.
Que la saison dernière, c'est mais c'est pas encore, en fait, c'est pas encore top. Bah, top
pour, hein. Pour un début de saison, c'est bien, c'est très bien.
C'est solide quand même ce qu'il fait.
Il est entouré quand même de Diego Rota qui joue, Luis Diaz, Mohamed Salah de l'autre côté, Gakpo aussi. Il y a énormément d'attaquants. Donc du coup, il faut voir les stats par rapport à son temps de jeu et par rapport au nombre d'attaquants qui sont là. Moi, je pense que cette saison, en tout cas, il fait une bien meilleure saison que l'année dernière.
C'est ça. Et puis bon, il y a forcément encore des défauts à gommer, mais c'est comme tout joueur. Et je pense que Gonçalo Ramos et Colomouani, peut-être que la première saison sera compliquée, mais c'est un nouveau départ aussi pour le PSG, un nouveau projet, des nouvelles marques à prendre, et je pense que la saison prochaine, ça ira beaucoup mieux.
La patience.
Ouais,
Amadou.
Ouais, j'allais dire. Enfin, je pense, bon, c'est un peu la presse quand même qui essaie un peu de titiller, je pense, le PSG, mais je pense qu'il faut les laisser
travailler.
Ça
se voit aussi dans les compositions d'équipe.
Ouais, ouais.
C'est des 15 minutes, des 20 minutes, je te fais rentrer, je te fais sortir. Il n'y a pas de stabilité. Moi, je suis joueur, je n'ai pas l'impression que mon coach me fait confiance. Hein. Je suis désolé.
Ouais, bon, je pense qu'il laisse, comme il avait dit en début de saison, pour lui, il n'y a pas de 11 types. Il a dit que voilà, j'ai 23 titulaires. Après, c'est aux joueurs de gagner leur place. Moi, je suis confiant pour Paris Saint-Germain. Là, ils sont qualifiés dans toutes les compétitions.
Non, mais pas pour le PSG. Là, on parle de deux joueurs nominatifs, là, en l'occurrence. Là, on a beaucoup parlé de Colomouani, mais quid de Ramos ?
Après, je pense aussi que peut-être, enfin, les dirigeants du Paris Saint-Germain, enfin, j'espère, je pense qu'ils se sont aussi fixés par rapport à l'avenir aussi. Peut-être, vu qu'on ne sait pas si Mbappé va rester ou pas. Ça fera une autre alternative. Donc, à mon avis, il vaut mieux garder tous ces joueurs-là, vu en plus le prix qu'ils ont coûté.
C'est vrai qu'on peut penser que Colomouani est venu dans une optique plus d'avenir avec le probable départ d'Mbappé. Si Mbappé part, ça fera une solution de plus sur le côté gauche et une solution, ma foi, qui reste très bonne.
Bah, vous voyez, par exemple, c'est là où justement moi je confirme un peu les doutes que dit l'équipe. Hein. Regarde un joueur comme Barcola. Il est parti au tout début pour être potentiellement un remplaçant. Aujourd'hui, on se rend compte que Barcola est en train de devenir un titulaire. Alors que ce n'est pas le cas des deux précités, à savoir Colomouani et Gonçalo Ramos. En cela où moi je crois aussi à la thèse qu'évoque le journal L'Équipe, à savoir qu'il y a des doutes justement de l'entraîneur vis-à-vis de ces deux joueurs-là.
Mais je pense qu'il y a des doutes et je veux dire, c'est presque normal pour un footballeur d'avoir des périodes de doutes. Barcola, il est très en forme en ce moment.
Là, on est quasiment à la mi-saison. Hein,
c'est ça, non, mais oui, il y a des doutes et forcément, ça peut handicaper le Paris Saint-Germain. Après, je maintiens que c'est deux joueurs qui, faut les mettre dans de bonnes dispositions. Et je pense que ça ira beaucoup mieux pour eux.
Et on va signaler justement que l'Algérie justement a ouvert le score à l'instant même s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations, 1-0 face justement à l'équipe nationale d'Angola. Un très 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 joli but d'ailleurs, hein,
de Bounedja,
fouetté comme ça du droit de Bounedja, justement le joueur qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est bien
très
ça,
très très joli but, petit filet opposé, 1-0 pour les Fennec d'Algérie. Mon cher Stéphane Desenclos.
Oui, ben moi je suis
Colomouani versus Ramos.
Nos confrères qu'on adore de l'équipe, faut pas être sortis de la cuisse de Jupiter. pour savoir que quand tu joues pas, ce qui est le cas de Ramos et de Colomwani, où tu es très peu souvent titulaire, il y a forcément des doutes. Maintenant, les doutes, je pense qu'ils sont pas trop sur les joueurs, et c'est des doutes que moi j'ai aussi un peu, c'est par rapport aussi à la façon de jouer. Si tu as regardé le match par exemple d'hier contre Lens, tu t'es aperçu, bon, c'est vrai qu'il y avait un contexte particulier, Lens a été réduit à 10, mais c'était de la folie quoi, dans les petits espaces, les petites passes, fallait une technique incroyable. Un joueur comme Colomwani, que moi j'adore personnellement, hein, vous savez très bien, jamais il aurait pu faire tous ces échanges avec Mbappé, ce petit jeu et tout. C'est un joueur beaucoup plus d'espace. D'ailleurs, il réussit à Francfort, à Nantes, qui cherchait à se sauver. Il réussit à Francfort, un championnat quand même en Bundesliga où je crois qu'il suffit de savoir pousser le ballon dans le but et puis tu réussis, tu marques 15 buts dans la saison, parce que tout le monde marque des buts. Donc, il réussit dans les espaces. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, moi je serais intéressé par savoir qui, on sait que Barcola, Enrique l'a directement contacté par téléphone pour le convaincre de venir, c'était son projet dès le mois de mai, quand il arrive on parle que c'est une de ses priorités qu'il veut Barcola. Je serais intéressé par savoir moi quelle était la position de Luis Enrique par rapport à un joueur comme Colomwani. Après, comme un joueur comme Ramos, même question, comme j'ai entendu tout à l'heure avec le Barça ou même avec l'Espagne, bon, un peu moins quand il y a eu Morata, mais c'est pas un grand adepte du neuf, du pivot man comme on pourrait dire. Donc c'est Ramos, c'est un joueur comme ça qui est un joueur un peu de surface, un joueur même s'il est assez, donc c'est vrai que ces deux joueurs ont des profils pour l'instant qui, quand tu regardes jouer le Paris Saint-Germain, ils ont des profils de remplaçants quoi. Mais moi je suis content pour ma part en tout cas d'avoir un Colomwani sur le bord de la touche pour venir.
Mais s'agissant de Gonzalo Ramos, pardon, mon cher Stéphane.
Ben Gonzalo Ramos, c'est vrai, c'est pareil. Moi, je dis sur les deux profils de joueurs, c'est un peu étonné effectivement. Quoi. C'est un peu étonné de les voir dans un effectif de Luis Enrique. Et mais c'est pas étonnant de pas les voir dans l'équipe. Barcola, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Barcola, c'est un pur ailier, quoi. C'est bien qu'il arrive à mettre des buts pleins de sang-froid comme celui qu'il a mis contre Lens, mais c'est un pur ailier, mais qui peut aussi être joué dans les petits espaces. Colomwani, c'est pas un ailier, c'est un joueur d'espace, un attaquant, je pense, d'après moi, en tout cas, peut-être à deux attaquants, je sais pas, d'un joueur d'espace, de physique. Et Ramos, lui, par contre, c'est un pur neuf, quoi. Donc, mais bon, il n'y a pas non plus d'avoir d'énormes inquiétudes. C'est deux joueurs très jeunes. Et qui sont là pour l'avenir et qui voient l'habitude, sauf si pour l'avenir, par exemple la saison prochaine, Enrique préfère prendre un autre neuf
à suivre dans tous les cas. Et on n'oublie pas qu'il y a Asensio quand même dans cet effectif parisien, hein. on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un joueur qui appartient justement à l'effectif parisien. Et il y a même un certain Ekitike aussi, hein.
Ouais.
Qu'on oublie, mais bon,
il est obligé de critiquer.
Je sais pas s'il faut avoir un doute ou pas pour lui.
On va saluer justement l'arrivée de notre ami Chekenza. Chekenza, bonsoir, ça va?
Bonsoir, Malik.
T'étais à fond dans la canne, hein, du coup, t'es un peu à la bourre là, c'est bien ça?
Ouais, c'est pas ça, c'est le problème avec les transports.
À noter effectivement que l'Algérie mène toujours face à l'Angola 1-0 et qu'on joue la 23e minute de jeu. Hein, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Chekenza, justement, on évoquait, hein, Gonzalo Ramos et Colomwani. Hein, est-ce que les doutes, justement, de l'entraîneur Luis Enrique sont justifiés par rapport, justement, à ces deux joueurs?
Bon, Gonzalo Ramos, là, il y a pas mal de temps de jeu, mais il n'y a pas eu la confirmation derrière. Concernant les deux joueurs, bon, en plus, c'est des jeunes. Vraiment, Gonzalo Ramos, il sort d'une très grande saison au niveau du Benfica. Quand il est arrivé à Paris, je pense qu'il n'a pas été mis dans les conditions concernant cela. Barcola, par contre, lui, c'est un avenir prometteur, mais qui manque encore plus de maturité. Je pense que...
Non, on n'a pas parlé de Barcola, là, pour le coup. Colomwani.
Colomwani. Bon, Colomwani, sincèrement, moi, je suis un peu déçu, parce que oui, c'est pas le joueur vraiment qu'on a vu à Francfort. C'est pas l'attente vraiment que le Paris Saint-Germain avait besoin. Moi, j'aurais préféré un Victor Osimhen, par exemple, soit un Victor Osimhen ou soit peut-être un Harry Kane, un attaquant vraiment.
Est-ce que Mbappé aurait accepté?
Très cher.
Parce que oui, tout le monde dit que c'est Mbappé qui a fait l'équipe. Ouais. Osimhen qui vient concurrencer Mbappé.
Non, le problème, c'est pas Mbappé. Le problème, c'est pas Mbappé. Le Paris Saint-Germain, ils ont les moyens, ils ont de quoi vraiment à se permettre. Et n'importe quel joueur, surtout les joueurs du calibre d'Osimhen. Après aussi, ça dépendait pas que d'eux. Il fallait aussi une volonté manifeste du joueur de venir vraiment à Paris aussi. Mais je pense que Colomoigny, pour moi, ce que je vois là, c'est comme un échec. C'est comme s'il a floppé du coup, ben, parce que jusqu'à 3 mois, là, il n'a rien monté. Il n'a même pas encore 5-6 buts, voire disons. Ben,
Colomoigny, il a 7 buts là. Il a 7 buts. Deuxième but de l'Algérie.
Il y a hors-jeu.
Il y a Bounedja qui vient, ce qui est certainement hors-jeu pour le coup. Dans tous les cas, il va falloir que cette équipe angolaise.
C'est le plus beau but refusé de l'histoire de la CAN.
Essaie de régler quand même quelque chose.
L'enchaînement, il est
au niveau de son milieu de terrain et aussi de sa défense, parce que là, on a l'impression que à chaque offensive algérienne, justement, il y a un danger au niveau de la surface de réparation des rouges et noirs. Un joli but, mais hors-jeu refusé de Bounedja. C'est-à-dire que bien que jouant du côté de l'Arabie Saoudite, j'ai l'impression qu'il a gardé quand même la forme et cette adresse qu'on lui connaît. Hein. On va continuer de poursuivre, justement, les amis, au bout du foot. Hein. On parlait de Colomoigny et de Gonzalo Ramos. Là, vous avez donné vos différents avis. À présent, on va s'arrêter sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, hein, l'Olympique de Marseille, 12 ans sans titre. Est-ce que l'OM est encore un grand club? On va commencer par El Hadj.
Non.
Je suis d'accord avec toi.
Non. Marseille n'est plus un grand club. Enfin, moi, personnellement, voilà, moi, depuis que je suis né, ils ont pas gagné grand-chose. Du coup, pour moi, je les ai jamais vus au top. Marseille n'est pas...
T'as pas moins de 12 ans, moi, on est d'accord.
Non, j'ai pas moins de 12 ans, mais ils ont jamais rien gagné, à part une Coupe de France, je crois, c'était en 2012, c'était ça, Coupe de France. Coupe de la Ligue. Qui a été supprimée. C'est vraiment pour vous dire l'importance du trophée. Tu partages mon avis, Malik, j'espère.
Un peu comme la Coupe des vainqueurs de Coupe aussi. Donc, championnat de France et la Coupe de la Ligue.
Trois Coupes de la Ligue, nous sommes
en... Le dernier titre, c'était avec Didier Deschamps, d'ailleurs.
2010. Ouais.
Voilà, bon, la question est vite répondue. Hein. Sur la scène européenne, ils en sont où?
Après, la question est posée, mais c'est vrai qu'il y a le budget, le public est toujours là. S'agissant des résultats, beaucoup moins. L'équipe est plus ou moins qualifiée pour la Ligue des Champions, voire l'Europa League, mais malgré tout, les titres n'y sont pas.
Ça n'est pas une excuse, Malik. Lille, ils ont remporté un titre il n'y a pas longtemps. En termes de budget, je pense que Marseille sont au-dessus. Rennes, ils remportent une Coupe de France de temps en temps aussi. Franchement, pour moi, ce n'est pas une question de budget. Hein. C'est vraiment l'âme du club et c'est vraiment le club en soi qui est atteint d'une maladie. Ça fait très longtemps.
Maladie incurable, voilà. Il a dit Alfred, t'es d'accord?
Bon, je partage son avis parfaitement. Marseille n'est plus Marseille. Et puis bon, ben aujourd'hui, ça fait des années, ça dure. C'est pas 12 ans, non. Bah, à chaque année, c'est toujours quoi? 2-3 matchs, on est éliminé, on est là, c'est toujours la même chose, on reprend des...
Tu dis bon, t'es marseillais?
De conviction, oui, mais après le départ de Tapie, il n'y a plus rien. Enfin, on joue 2-3 matchs, on fait croire aux supporters comme quoi on va avancer, on touche le pognon pour la Ligue des Champions, les gens ils payent les abonnements, vers la fin c'est terminé, c'est décevant. Ah, c'est ce que j'ai toujours dit, soit on vise l'Europa League, les secondes coupes, pour essayer d'exister un peu, pour voir une nouvelle politique, de nouveaux projets. Ben jusqu'à aujourd'hui, franchement, pour une grande ville comme Marseille, c'est vraiment décevant.
Quentin ?
Après, la question, elle est là. C'est, je pense que Marseille, en France, ça reste un grand club. C'est plus au niveau, à l'échelle européenne. Bah, ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils sont mauvais.
Quand on est dans son championnat domestique, qu'on fait 12 ans sans gagner le moindre titre... Mais, est-ce qu'on peut dire qu'on est un grand club encore?
Bah, incontestablement, Marseille reste un grand club en France, tout simplement parce que ils ont une histoire, ils ont une certaine ferveur. Puis ça reste Marseille. Je suis loin d'être supporter à Marseille, mais
non, n'aie pas peur, on va pas te poser la question.
Ça reste l'Olympique de Marseille. Et par exemple, cet été, ils ont fait un mercato qui, sur papier, était plus qu'intéressant. Tout le monde les voyait quand même, je pense, beaucoup mieux de ce qu'ils sont actuellement, voire à la limite à concurrencer le PSG. Bon, le résultat
mercato, ça dépend. Hein.
Bah, sur le papier, il y avait des noms comme Aubameyang, Lodi, Kondogbia,
Ismaël Assar, Illiman Diaye, ça nous faisait rêver, nous, pour Marseille.
Aubameyang, vieillissant, Illiman Diaye. Ligue 2, Championship,
quand on voit la
Championship, c'est aussi pareil.
Mais Championship, moi j'ai envie de te dire, Championship aujourd'hui tu la compares à la Ligue 1, Malik.
Il y a des équipes qui peuvent concurrencer.
Mais bien sûr, mais bien évidemment.
La preuve, ils n'arrivent pas à émerger, c'est te dire aussi.
Mais ils jouent pas le même rôle. Est-ce qu'ils jouent le même rôle?
Ndai, c'est un jeune joueur qui jouait justement en Championship. Si au bout de 6 mois.
Qui a fait une belle rentrée aujourd'hui d'ailleurs, avec le
Sénégal. Ouais, mais c'est pas un mauvais joueur. Mais voilà, c'est.
On n'a pas les mêmes joueurs comme Paris, il faut être honnête.
Ah, mais voilà, bah forcément, il y a une différence de moyens. Il faut qu'il y ait une
différence
d'objectif.
C'est les moyens qui nous manquent, c'est les moyens.
Il ne joue pas aussi le même poste. Illiman Diaye en championship avec Sheffield United. Et là, maintenant, il ne joue pas le même poste. Bah c'est oui, ça mais... aussi qui change. Mm-hmm.
Puis il y a un changement de coach aussi au début de saison qui a aussi. Compliqué.
Là, on parle de 12 ans. Là, hein. On parle
oui,
pas
non,
de...
mais là, c'était pour revenir sur cette.
Amadou, ta réaction par rapport à l'Olympique de Marseille, justement. Est-ce que l'Olympique de Marseille demeure encore un grand club?
Moi, j'aurais du mal à dire ça. Bon, historiquement, ils le sont. Mais là, ils sont. Pour moi, ils sont finis. C'est un second couteau depuis plusieurs années. Ils arrivent pas à gagner un championnat. Depuis. Bah, là, ça. Quoi, c'est depuis 2010 ou depuis 2013.
2010 le dernier titre.
Ouais, depuis ils avaient gagné le championnat.
2010, ouais.
Avec Deschamps.
À l'époque de Pape Diouf, d'Acier aussi. Depuis là, en fait, bon, c'est vrai que comme disait un collègue aussi, ils font rêver ils essaient de faire rêver de temps en temps les supporters en leur vendant le grand attaquant, comme ils disent à chaque fois. Mais on est souvent sur des flops. On sort de les agents, une sorte des joueurs. Bon,
c'est tous des joueurs de second rang qui reviennent.
Enrique, là, Vitinha. Et en fait, on est toujours dans l'attente. Et c'est vrai que peut-être ce qui pourrait les sauver, c'est peut-être un fonds saoudien.
Il y avait eu des rumeurs, il me semble.
Américain, mais même les fonds qui viennent à chaque fois, c'est toujours ambigu. Une fois, je sais qu'à l'époque, il y avait un milliardaire canadien, ou je sais pas quoi, qui voulait venir, Gérard, ou je sais pas quoi, et c'était une arnaque. Enfin. Peut-être qu'avec
Kashkar,
des fonds...
Kashkar.
Kashkar, ouais voilà. Cherchez
un
le
Kazakh,
voilà.
C'était un Kazakh,
ouais.
Je crois.
Ouais,
non,
Kashkar. Ouais, ouais. Et peut-être qu'il leur faudrait peut-être des fonds saoudiens, comme ça ferait une bonne rivalité.
Donc vous ramenez ça à de l'argent, c'est pas une question. Moi, je pense que ça travaille pas beaucoup. Hein. Alfred...
L'argent, certes, mais il faut aussi des hommes. Il faut des gens pour le club, il faut des projets. Parce que avoir les moyens, il faut avoir les moyens et aller faire les bons choix. Et mettre les joueurs à la bonne place. Ceux qui sont motivés, qui veulent vraiment évoluer dans le club. C'est ça qu'on attend de Marseille. Lorsque vous mettez par exemple un défenseur comme Dimeco, comme Desailly, ils veulent mouiller le maillot parce qu'ils ont tapis derrière eux. C'est ça qui a fait qu'on a gardé cette identité marseillaise qui a continué. Bon, aujourd'hui on nous fait croire, on va chercher Aubameyang, c'est bien. Ben, ça rapporte quoi, c'est fini, non. Il va marquer juste, je veux bien qu'on passe chercher l'Europa League. C'est pas un mal en soi, mais pour aujourd'hui là, on a écrit une histoire. Mais ça fait mal de voir que à chaque fois qu'on va au Vélodrome, on casse tout.
Philippe.
Oui, ben moi je suis désolé, messieurs, Marseille n'est plus un club phare du football français.
On n'est pas désolé, t'inquiète.
Il vit sur son passé, certes à jamais les premiers pour la Ligue des Champions, mais voilà, il est resté à cette époque-là, il y a pas de il change régulièrement d'entraîneur, les entraîneurs font pas de saison.
Les entraîneurs de second rang, on les voit pas, ils viennent d'où.
Alors, il ne vaut que par son public. Marseille actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a une véritable culture football dans le public, mais excepté ça, Marseille n'est plus un grand club du football français comme Saint-Etienne, comme Bordeaux, c'est pareil.
Ils ont tout essayé avec Basile Boulier et ça ne marche pas.
Et malheureusement, il manque un gars comme Bernard Tapie, quoi. Voilà, quelqu'un qui ait des tripes et puis qui fasse peu d'erreurs dans ses choix.
Et qui fait l'échec aussi,
et
d'ailleurs.
Et qui galvanise. Ça aussi, c'est important. Enfin, d'échecs, il y en a d'autres qui en font et puis ils se plantent complètement.
Non, mais quand tu fais l'échec que toi-même, t'es pas là.
Mais rappelle-toi, Waddle, il avait été acheté pour une bouchée de pain. Ça a été un des plus beaux joueurs de football français comme étranger. Donc, comme quoi, l'échec, ça ne sert pas toujours à grand-chose. Il ne faut pas se tromper sur les hommes. Il faut garder cette identité. C'est ça qui est important.
C'était Cheikh Hamza.
Pour moi, je pense que Marseille reste et demain un grand club. Parce que laisse-moi terminer, il n'y a pas que Marseille. En fait. Tous les grands clubs, vraiment, ils ont vécu des périodes difficiles. Oui, par le passé, il n'y a pas que Marseille. Le Milan, ils ont fait près de combien d'années sans remporter la Serie A.
Après, il y a Liverpool qui a fait 30 ans sans Premier League. Même si le plan européen, ils étaient là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens.
Combien de Coupes d'Europe pour Liverpool? Combien de Coupes d'Europe pour le Milan AC? Combien de Coupes d'Europe pour l'OM?
De 90 à 2020, Liverpool a remporté que deux Coupes d'Europe, ouais, de Ligue des Champions.
C'est beaucoup. Mais il y en a, ils n'ont jamais réussi Marseille à la gagner. Ils se battent tous les jours pour essayer
de la gagner. Mais Marseille est déjà une Ligue des Champions, en fait. Ouais, en plus, ce n'est même pas les mêmes contextes. Marseille, c'est un club vraiment, depuis pas mal d'années, qui vit vraiment des difficultés.
Les grands clubs ne meurent jamais, on dit.
Oui, mais comme on le dit. Exactement. Mais comme on le dit, donc Marseille
est vraiment mort. C'est...
Non, Marseille, ils sont pas morts. Là,
c'est son avis,
là,
ce
le problème.
Dire,
hein. Oui. Là, le problème, c'est. Là, le problème, c'est que vraiment le
club. C'est l'argumentation qui est importante.
Le club vraiment vit une difficulté depuis vraiment le départ de Pape Diouf et tout ça. Après, les présidents qui se sont succédés, ils n'ont pas une politique vraiment sportive. Et c'est ce qui est un peu, c'est ce qui a un peu dégradé la situation du club vis-à-vis des supporters vraiment qui en ont marre et tout depuis un certain temps. Il ne ramène pas peut-être des joueurs de qualité. Le Mercato, ouais, comme il a dit Alfred, oui, c'est vrai vraiment qu'ils vendent un peu du rêve aux supporters. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va régner Marseille. Donc on va cracher sur Marseille pour dire c'est plus. Non, Marseille, c'est un grand club.
Marseille demeure parce que
quoi qu'il arrive, face à des concurrents comme Bordeaux aujourd'hui qui sont entièrement dessous, qui n'arrivent même plus à jouer, qui jouent en Ligue 2, Marseille se maintient. Marseille a toujours ses supporters. Quoi qu'il arrive, Marseille, ils vont en Europa League.
Il vaut que pour le supporter. C'est vrai que ça.
Quoi qu'il arrive.
Après, forcément, il y a des choix questionnables de la part de Longoria.
Il y a des trucs qui sont visibles. Aucun port, s'il était à Monaco, il est venu à Marseille. Mais regarde ce qu'il fait à Séville. Mais après, c'est pas le même contexte, c'est ce que je t'ai dit.
Ah ouais,
c'est
pas mon mot. Ça se construit.
Ça se construit. Mais là, il n'y a pas que Marseille. Si on veut parler de Marseille, ça fait vraiment près de 10 ans que le club français, on a comme l'impression qu'il y a une régression au niveau des clubs phares de la France. Et pourquoi il y a cette régression? Parce que il n'y a pas vraiment les moyens comme ils le souhaitent. À un moment donné, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux un joueur moyen, il faut débourser au moins 50 millions ou 60 millions d'euros. Mais où les sortent? C'est ça le problème. Mais ils font avec les moyens de bord, ils font avec ce qu'ils ont. Ils sont, oui, des joueurs, ils ont des joueurs vraiment minimes, pas des grands joueurs. Mais un Aubameyang et tout, c'est un joueur qui est déjà à la porte de sortie. Donc dites-moi si Marseille, ils ont les moyens. Ils ont les moyens qu'ils le font.
24 millions. Excuse-moi, 24 millions sur 3 ans pour
Aubameyang. Non, mais 24 millions quand même.
24 millions qui donnent à Aubameyang sur 3 ans.
24 millions aujourd'hui, c'est rien dans le football quand même.
On va tout simplement retenir que Michel Kenza, pour toi, Marseille reste et demeure un grand club.
Marseille reste et demeure le plus grand club de France.
Stéphane Desenclos.
Oui. Bien sûr, mais c'est le seul club.
Non, mais après, ça dépend. Je vous entends parler, ça dépend de ce que tu donnes la définition d'un grand club. Si effectivement, c'est un grand club, c'est.
C'est le passé, c'est le présent et c'est ce qu'on entrevoit dans le projet futur.
J'ai entendu dernièrement un ancien joueur de l'OM qui est devenu consultant pour une radio très connue qui a dit déjà pour être considéré comme un grand, je ne partage pas l'avis, hein, pour être considéré comme un grand club, il faut au moins avoir gagné une Ligue des Champions. Donc ils ont gagné une Ligue des Champions en 93. Maintenant, un grand club, grand stade, grandes infrastructures, grand public, grand supporter et tout ça, je veux bien. Maintenant, effectivement, au bout d'un moment, les résultats doivent venir. Mais Marseille est surtout un club qui est gangréné complètement par... je sais pas, c'est qu'on dit le chat qui se mord la queue, c'est un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que quand n'importe qui rentre dans Marseille, j'ai l'impression qu'il est happé par cette espèce d'ambiance particulière. Et quand je dis ça, par exemple, j'appuie mes dires sur, par exemple, le comportement de quelqu'un comme Pablo Longoria, par exemple. J'ai l'impression qu'il est happé par ça. C'est-à-dire quand il fait son recrutement, quand il va mettre... quand il apprend un Aubameyang, il est happé par l'ambiance marseillaise. Ah, Aubameyang, ça c'est bien, ça va claquer pour un club comme l'OM et tout. Il faut un joueur qui a une grande envergure. Et j'entendais tout à l'heure, juste pour ça, on parle d'argent. L'OM a quand même mis, quelqu'un a dit, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Ils ont quand même mis 32 millions d'euros pour acheter un attaquant portugais qui était même pas international, qui était rien du tout par rapport en tant qu'à sa sélection, qui avait fait une bonne saison avec un club portugais, avec Braga. Ils ont mis 32 millions dessus. Donc ils avaient quand même les moyens de
là, mettre... Là, tu parles de qui, là? De Vitinha?
Ouais, je parle de Vitinha, là.
Vitinha a combien de buts cette saison?
Cette saison, je sais pas, il doit être 7, je sais pas, 3. En tout cas, depuis qu'il est là, peut-être il en est
donc
à
7. Donc il a le même ratio que Gonzalo Ramos, en fait.
Ben voilà, exactement, ouais. Ben voilà, sauf que Ramos, il joue jamais.
Le PSG, ils ont les moyens et que Marseille, non.
Ils peuvent pas se permettre de faire les mêmes erreurs. Ouais.
C'est exactement ce que je dis. Quand je parle pas du Paris Saint-Germain, je vois pas ce que Paris Saint-Germain fait dans la discussion. Je dis juste que si on dit ils n'ont pas les moyens, ils font avec les moyens du bord, bah, je suis désolé, mais je pense que faire avec les moyens du bord, si tu as 30 millions, bon, à l'époque, Terrell Moffi n'avait pas voulu venir, avait choisi d'aller à Nice. Je crois que Terrell Moffi à Nice, c'était 25 millions, je crois. Je ne sais pas qui, là tout de suite, comme ça, je n'ai pas dans la tête, mais il y a certainement d'autres attaquants à aller chercher pour prendre. Moi, je vois par exemple un type comme Adams là, qui joue à Montpellier. C'est un super bon attaquant. Je veux dire, il est prêté, je crois qu'il est prêté. Bon, est-ce qu'une équipe comme Marseille pouvait pas essayer de choper un joueur comme ça, par exemple ?
Qui te dit
qu'il se serait adapté ? C'est toujours pareil, hein. On peut refaire l'histoire, les amis.
Et après, pour les stats de Vitinha,
jusqu'à la fin des temps, on peut dire que c'est pas facile de jouer à Marseille, donc on s'adapte pas, personne s'adapte à Marseille, et tout, on peut bien. Bon, en l'occurrence, moi, je pense que Aubameyang, c'est pas du tout un flop, hein, mais en tout cas.
C'est un flop, Aubameyang. Stéphane, non, c'est un flop au Aubameyang. Vous l'avez vu là, 5-6 derniers matchs, il a commencé à mettre des buts, on refait les comptes à la fin de saison. Et Vitinha, pour info, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Chekenza.
Aubameyang, il mettra 10 buts sur la saison.
Bah, 10 buts, il parle peut-être en Ligue 1. En Ligue 1, parce que si c'est pour mettre un doublé contre Panathinaikos et finalement sortir, ça ne vaut strictement rien du tout. Voilà, clairement. Et Vitinha, il est à 4 buts. Toute compétition confondue.
Ça existe, les erreurs de casting.
C'est exactement ce que je dis. Je dis justement, il fallait peut-être pas le prendre ou le prendre si t'as des moyens. Après, il faut compter tes sous et voir où tu peux mettre tes sous. C'est tout.
Il y a eu des erreurs de casting, je pense. Pablo Longoria, ça bosse quand même très fort depuis qu'il arrive à Marseille. Il a réussi.
Ça, c'est pas l'avis de Stéphane. Hein.
Moi, c'est pour aller justement dans le sens inverse où c'est vrai que Vitinha, 32 millions, c'est cher. C'est pas forcément rentable et c'est. Malheureusement pour les Marseillais, ils doivent en payer le prix fort, mais. Mm-hmm.
Pour moi, il a tenté. Franchement, il ramène Vitinha qui faisait une très bonne saison dans un championnat portugais qui n'est pas étranger vraiment à un point où on peut dire voilà, il est pas très loin du championnat français. Et franchement, il a fait une très belle saison. Maintenant, tu investis 32 millions sur lui. C'est un jeune joueur. Tu te dis demain, même si il explose pas, il fait une bonne saison, on pourra le revendre aussi cher parce que c'est un jeune joueur. Et franchement, il a tenté. Maintenant, ça n'a pas marché. Ça aurait marché, tout le monde. Aurait dit que Pablo Longoria est un génie.
Là, je suis désolé, si t'as pas les moyens, tu peux
on ponctue là-dessus.
Le PSG Ramos va peut-être se planter. Moi, je pense comme toi que c'est un joueur d'avenir, un jeune joueur d'avenir. Mais même s'il se plante, au moins le PSG, même je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Hein. Ils peuvent se permettre de balancer 80 millions carrément par la fenêtre. Apparemment, l'Olympique de Marseille, puisqu'on dit qu'ils ont des moyens très restreints, ne peut pas se permettre de faire ça. Et on le voit aujourd'hui. Ce qui se passe, je ne vais pas m'acharner sur Vitinha, je parle de Longoria en différence. Il y a une chose qui m'énerve beaucoup sur l'OM, c'est que le seul qui n'a rien fait à part mettre de la thune, c'est Franck McCo, et c'est lui qui se fait insulter par les supporters tout le temps, et c'est pas de sa faute à lui si l'argent il est mal utilisé, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ce qui s'est passé avec Lodi, quelle analyse on peut avoir à ce qui s'est passé avec Lodi, acheter un latéral gauche 13 millions au mois de juillet. Tu gagnes à la limite, tu gagnes, tu fais le double, le triple en plus-value. Je veux bien, tu le laisses partir, mais c'est un truc de fou, tout ça pour gagner, au bout du compte, pour gagner 2 millions peut-être.
Merci Stéphane, on a bien entendu ton propos. On va continuer justement d'avancer. Il est déjà 21h43, les amis. On va partir cette fois-ci pour l'Espagne. Et on va s'arrêter justement du côté de Barcelone, hein, dimanche soir, pas plus tard qu'hier, justement, à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid a tout simplement roulé sur le FC Barcelone, s'imposant sur le score de 4-1, un duel dans lequel les Merengues ont bien été supérieurs dans tous les compartiments du jeu et qui vient encore une fois
fragiliser le FC Barcelone, où on pouvait avant ce match déjà même sentir ce parfum de crise là. Et il y a un homme qui prend très cher depuis un moment, et ça s'est encore accumulé ces dernières heures. C'est l'entraîneur Xavi, un temps protégé par la critique, son statut de légende du club aidant. L'ancien milieu de terrain barcelonais est désormais le premier homme pointé du doigt lorsqu'il s'agit de désigner les mots de ce Barça. Après la rencontre d'hier, beaucoup ont encore réclamé sa démission, pardon, ou son licenciement, sur les réseaux sociaux notamment, où la fanbase barcelonaise estime qu'il a perdu son équipe et qu'il n'est pas l'homme de la situation. Le Barça n'y arrive vraiment plus. À qui la faute, Eladj?
Malik, tu sais très bien à qui la faute. À Xavi. Mais j'en parle, ça fait un mois et demi que j'en parle déjà, parce qu'il gagnait, malgré ça il gagnait, mais dans le jeu c'était piteux. Dans le jeu franchement, c'est, et comme là c'est pas beau à voir. Avant le Barça tu prenais du plaisir à les voir jouer, aujourd'hui c'est une purge. Tu regardes le Barça, il gagne à chaque fois avec des petits détails, ça va être un carton rouge, ça va être un pénalty sifflé à la dernière seconde, un but hors jeu, pas hors jeu, revision de la VAR, et non finalement c'est accepté, c'était très limite, on a vu. L'année dernière quand même, faut parce qu'ils ont gagné la Liga. Il y a beaucoup de gens qui le disent, oui, ils ont gagné la Liga, mais il faut savoir qui a été leur meilleur joueur. Ter Stegen, un gardien, ça n'était pas arrivé depuis combien d'années? Depuis combien d'années ça n'était pas arrivé? Aujourd'hui, Ter Stegen l'est blessé, on voit bien ce que ça donne. Bah voilà, tu joues contre le Real Madrid, ça fait mouche, même contre d'autres équipes, hein, parce qu'on voit bien, ils n'ont pas le niveau, franchement, ils n'ont pas le niveau. Xavi, est, pour quelques stats, Xavi est à une défaite de devenir le pire entraîneur avec le plus de défaites avec le FC Barcelone. Comme je le dis et comme je me répète depuis un certain temps, Xavi, c'est vraiment parce que c'est un joueur du club, mais ça n'est pas l'entraîneur du club. Ça fait un moment que Xavi n'a pas le niveau pour entraîner le Barcelone, mais il le laisse à la tête parce qu'ils ont des infinités avec lui. Mais maintenant, ça va pas suffire.
Justement, tu parles d'affinité. Le président Laporta justement maintient sa confiance à Xavi, mon cher Alfred.
La semaine dernière, on en a parlé. La venue de Xavi, il était considéré comme un sauveur. Après, il y a eu quelques résultats positifs, mais bon, la venue de Lewandowski et tout ça, Gavi, mais est-ce que réellement il est la personne idéale pour tenir ce club? C'est ça qu'il faut voir. C'est un grand club, c'est le Barça. Donc il faut des hommes, voilà, à expérience. Moi, je pensais par exemple à Coman, des trucs comme ça, ou par exemple, je sais pas, des grands entraîneurs, mais pour moi, je pense que. Mais on a l'impression
justement,
que.
Justement, Xavi a succédé à Coman. Hein.
Coman a fait un fiasco.
Excuse-moi.
On a l'impression qu'on voit un élève. Alfred, un élève qui entraîne.
Alfred, mais c'est exactement ça. Alfred, excuse-moi de te reprendre, mais c'est exactement ça. Koeman, parce que là, chez Kenza, il est en train de crier à côté, c'est un fiasco.
Il a du caractère.
Koeman a des meilleurs résultats que Xavi. Même sur les 50 premiers matchs, Koeman a eu des meilleurs résultats que Xavi. Comment tu l'expliques? Sans Ferran Torres, sans Lewandowski, il jouait avec Aubameyang en pointe, Braithwaite. Non mais sérieusement, et tu oses lancer la pierre sur Koeman? Mais arrête chez Kenza. Franchement, faut arrêter deux secondes.
Chez Kenza n'a pas encore pris la parole.
Mais
vos apartés là.
Il l'a pris. Non, il l'a pris.
Donc les auditeurs ne savent pas la vie de chaque fois. On va penser à toi, Kenza.
Oui, Xavi, ça fait déjà plusieurs mois que dans le jeu c'est compliqué. Pourtant, il y avait eu un début de saison où il y avait eu un peu mieux dans le jeu, mais depuis qu'ils ont perdu contre le Real, le premier Calcico, c'est compliqué. Il a commencé à y avoir des défaites en Ligue des Champions qui ne s'expliquent pas trop. Et c'est ça, en fait, c'est des victoires à chaque fois par un but d'écart. Mais quand t'es le Barça, t'es censé savoir gagner tes matchs par deux ou trois buts d'écart à chaque fois. Et Xavi, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a plus son vestiaire. Et on l'a vu hier contre le Real. Enfin, ils ont pris l'eau au bout de 10 minutes, c'était déjà quasiment plié. Alors après, est-ce que c'est le seul fautif? Je sais pas, il y a une direction.
Excuse-moi, Quentin, je vais rajouter un seul mot. Est-ce que parmi les recrutements que le Barça a, il n'y a pas tous les joueurs qui ont l'ADN du club aussi qu'il faut voir? Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont un mélange, et tout ça, il faut le voir. Parce que quand on suit l'histoire même du passé du Barça... Voilà, les gens comme
Messi. Est-ce que justement l'absence de Messi n'est pas en train de planer sur ce club, mon cher Philippe?
Si, justement, je pense qu'il sort quand même d'une génération qui a été quand même, il faut le dire, exceptionnelle. Hein. Du côté du Barça, ça fait quand même quelques années où Barcelone n'est plus le grand Barcelone. Alors, je pense qu'il y a quand même une forte culture catalane dans ce club, et c'est peut-être cette culture catalane qui manque, parce que c'est un club qui avait très peu de transferts. Les joueurs venaient pratiquement et faisaient toute une carrière donc à Barcelone. Et je crois que cette génération est partie. Une autre, elle a du mal à arriver. La culture catalane, qui est très importante à Barcelone, n'est plus là. Puis après, sa vie, je crois qu'il fait avec les moyens comme il peut, avec le peu d'expérience qu'il a. Voilà.
C'est comme ça.
Oui, là tu as parlé d'une culture catalane, oui. Mais là c'est pareil, parce qu'aujourd'hui on a la génération des Gavi, des Lamine Yamal et tout ça. Moi je pense que le souci du Barça, certes il y a Xavi vraiment qui est pas l'homme de la situation, mais je pense que la Masia aussi ne forme plus les talents qu'elle formait par le passé.
Oui.
Bah oui, parce que oui, pour avoir vraiment des générations qu'on avait, il fallait avoir. Il y a une formation qui a été accentuée et tout ça. La formation était de qualité. Aujourd'hui, le Barça n'a plus cette même formation. Parce que là, ils forment juste des joueurs qui savent faire 2-3 dribbles. C'est fini, on le lance dans le grand bain. On parle d'un prodige. Oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés qui n'ont pas été vraiment étincelants. Il y a eu Bojan Krikic et tout ça. Ils en ont tellement parlé. Mais ça allait où? Après, il y a plein de joueurs. Même Romeu, la génération des Romeu et tout ça. Et donc, moi, je pense que le problème déjà, il va falloir qu'ils puissent revoir les politiques, vraiment la politique de formation qu'ils avaient autrefois. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes formateurs. Les choses ont dû évoluer et tout. Mais il faut aussi un entraîneur aussi qui connaît bien la maison. Parce que le Barça, c'est un club aussi à problème. C'est ça. Parce
c'est un
que
club
oui,
qui a talent, il faut cette identité.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est un club aussi à problème parce que là, tu as parlé de Coman.
Donc c'est un club communautaire alors.
Oui, bien sûr. Coman connaît le problème du Barça. Mais quand Coman est arrivé, il n'a rien fait d'extraordinaire.
C'est un autre président aussi.
L'avis d'Amadou sur la question.
Il avait joué au club.
L'avis
d'Amadou sur la question, s'il vous plaît.
Non, je suis d'accord avec mon collègue pour dire que la formation, elle est à bout de souffle. Après, de temps en temps, on nous sort des joueurs. Hein, c'est le futur crack, le futur Messi. Mais au final, c'est des joueurs lambda. Quoi. Ils ont été formés dans les académies, mais ils sont pas. C'est pas si fort qu'on ne le pense. Et là, c'est pareil, on entasse des joueurs. On entasse des joueurs, on ne comprend pas aussi la politique.
Qui ont quasiment le même profil en plus.
Après, c'est vrai qu'on peut prendre quand même Lewandowski parce qu'on sait que dans l'année, il peut mettre 40 buts. Bon, d'un côté, on prend lui, on prend du Joao Félix, juste pour que les supporters ils soient contents, qu'il y ait des nouveaux transferts, mais il n'y a pas de cohésion de groupe.
Il y a un milieu de terrain.
Ça fait trois ans que ça va moins bien. Ouais. Hein.
Ouais. Stéphane Desenclos, sur le sujet.
Oui, sur le sujet, moi, j'ai entendu tout ce qui a été dit, je partage un peu, sauf que je dirais que c'est un peu compliqué de juste tout pointer sur sa vie, parce que en fait, un club, quand il y a la dérive, un club, il y a la dérive à tous les niveaux. Et effectivement, t'as un joueur comme Lewandowski qui a marqué beaucoup de buts, qui en marque quand même beaucoup moins en Espagne que l'en marquait avec le Bayern. Regardez, je l'ai pas en tête là, combien a été acheté Lewandowski à un an de la fin de son contrat et à 32 ou 33 ans quoi.
Au moins 40 millions.
Je crois que c'est dans les environs de 60 millions, le salaire.
Donc je pense que tout est fait à l'envers quasiment depuis 3 ans, 4 ans dans ce club. Mm-hmm. Et effectivement, ce qui est clair, c'est que Xavi en l'occurrence, il a pas la carrure pour aller contre courant et sortir quand même le maximum de quelque chose qui est très moyen. Comme on parlait tout à l'heure, les pépites, il y a combien de joueurs pour entre 16 ans et 18 ans, 19 ans et qui ont des énormes responsabilités sur les épaules? Il y a plus de stars dans l'équipe, il y a plus de stars. Mmh. Il y a quasiment plus de ça. Il y a Ter Stegen et puis De Jong, quoi. Voilà, t'as mmh. deux joueurs, quoi.
Amadou,
c'est pas faux.
Ouais, je veux dire, et en plus, c'est pas récent, je dirais, tous ces problèmes. Bon, là, l'année dernière, ils ont gagné le championnat. Bon,
il n'y a pas beaucoup
de concurrence. Il suffit que le Real soit moins bien, eux, ils gagnent. Enfin, des fois, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Mais même au final, on voit que même en Coupe d'Europe, ils avancent pas. le Barcelone n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2015. Ça veut dire que ça va faire 10 ans. Pour un grand club.
Ouais. Et puis depuis 3-4 ans, ça allait plus très bien.
Merci les amis. À présent, on va basculer justement dans la Coupe d'Afrique des Nations pour les 8 dernières minutes qu'il nous reste en 34e édition du Nom. À présent, la Coupe d'Afrique des Nations, justement, avec un élément que nous a adressé notre ami Moussa depuis Abidjan. Léo, je ne sais pas si tu as l'élément, justement on va écouter Mousse depuis Abidjan et on va venir en plateau en discuter.
La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est ouverte ce samedi 13 janvier et le moins qu'on puisse dire, elle tient déjà toutes ses promesses. Passé le faste et le glamour de la cérémonie d'ouverture, les choses sérieuses ont commencé par le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Sans fournir son meilleur football, les éléphants de Côte d'Ivoire sont venus à bout d'une vaillante équipe bissau-guinéenne sur le score de 2-0. Le deuxième match de cette poule a occasionné la première surprise du chef. En effet, le Mzalang national de Guinée équatoriale a tenu en échec les Super Eagles du Nigeria qui ont leur sein pourtant le meilleur joueur africain, l'attaquant Victor Osimhen. Le Mozambique est passé à côté de l'exploit en faisant jeu égal avec les Pharaons du Nil qui sont revenus à la marque 2-2 grâce à un pénalty validé à la dernière minute de jeu. Le Cap-Vert a émerveillé tous les observateurs en domptant les Black Stars du Ghana par la plus petite marque. Quant au Sénégal, champion sortant, il n'a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de son cadet, la Sénégambie, réduit à 10 sur la marge de 3-0. Autant dire que cette compétition nous réserve bien des effarements et des émerveillements, comme sait si bien le faire le football. C'était depuis Babi, Big Mousse pour Mon Paris FM.
Merci Mousse depuis Abidjan. Pour compléter justement, le Cameroun et la Guinée ont fait match nul, 1-0. Et puis à la mi-temps, l'Angola est menée justement par les Fenech d'Algérie, 1-0. Les amis, on est déjà à la troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que cela vous inspire rapidement, Alfred?
Moi, je pense que la Côte d'Ivoire 7, elle a rempli les formalités.
Dans le micro, s'il te plaît.
La Côte d'Ivoire 7, elle a rempli les formalités, elle a gagné, elle n'a pas trop convaincu. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est le Sénégal qui a fait preuve de grande détermination, même s'il a joué contre une petite nation. Mais dans cette Coupe d'Afrique, il va falloir compter avec le Sénégal. Le Cameroun, ça avance, mais bon, il faut patienter un peu. Le Sénégal sort du lot.
Eladj?
Oui, ben moi...
On n'a pas encore vu toutes les équipes. Hein.
Oui, on n'a pas encore vu toutes les équipes, mais de ce qu'on a vu déjà, ben, c'était un peu prévisible, comme le Nigeria. Moi, j'avais
oui, tu avais fait un bon pronostic, j'espère que tu as joué. Là.
Ben, j'avais mis un petit match nul, ouais, c'était une belle cote à 3,75. Ouais. mais du coup, voilà, non, plus sérieusement, on a vu le Mozambique aussi, on avait dit de faire attention au Mozambique, qui ont failli gagner, et vraiment, sur un pénalty à la dernière seconde, ils se sont fait... Ils se sont fait égaliser. Maintenant, il y aura beaucoup de surprises.
Par l'incontournable Mohamed Salah.
Voilà, Mohamed Salah. Bon, qui ne sait pas tirer les pénaltys, hein, je tiens encore. Bah, c'était encore très, très juste, encore une autre fois. Hein.
C'est passé à côté.
C'est ce que j'avais dit
juste avant. Poteau rentrant.
Voilà, du coup, voilà, on verra les autres équipes qui vont confirmer.
Jacquenza.
Bon, mon impression vraiment du début de Cannes, je crois vraiment que c'est une compétition qui va avoir un très bon niveau. Il n'y aura pas de petite équipe. Parce que déjà, la plupart des grandes équipes ont été accrochées, le Nigeria. Par contre, ça, on voyait venir pour le Nigeria. Le Ghana aussi, bon, c'est une équipe vraiment en remaniement et tout ça. C'est un nouveau groupe. Bon, pour l'Égypte, ouais, j'ai pas été surpris parce que vu la physionomie du match, ils n'ont vraiment pas montré vraiment qu'ils voulaient vraiment gagner. Donc, après le Cap-Vert, ils ont été vraiment très bons. L'équipe aussi qui a joué contre l'Égypte, ils ont été très bons. Très, très bons. Et. Pour le Sénégal, c'est normal, c'est les champions d'Afrique. Ils ont joué en tant que grands, ils ont respecté leur rang, ils ont joué dignement, ils ont bien géré le match.
Amadou ?
Là, ce que je veux dire, c'est que déjà, on voit bien que c'est difficile les premiers matchs. On l'a vu avec le Ghana, l'Égypte et le Nigeria. Pour bien que, quand même, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont bien rentrés dans la compétition et de prouver que c'est quelque chose de difficile, déjà, le premier match. Et de là, je retiens, ouais, les surprises, c'est pas une surprise pour moi quand même, la Guinée équatoriale qui tient en échec le Nigeria, la Guinée équatoriale qui était en quart de finale de la dernière CAN. Après, ouais, l'Égypte.
Et le Cameroun qui n'arrive pas à battre la Guinée à 10 contre 11 pendant 45 minutes.
Ouais. Après, comme je vous ai dit dernièrement, moi je vois le Cameroun se qualifier.
Quentin,
ouais, moi je rejoins aussi le Cameroun. Beaucoup d'interrogations autour de cette équipe. Il y a eu des choix, par exemple Choupo-Moting qui n'a pas été retenu dans le groupe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de cette équipe là. Le Sénégal, je pense, a convaincu tout le monde, notamment avec la petite pépite Lamine Camara qui claque un doublé, dont le deuxième but magnifique. Donc voilà, on a eu des surprises. Le Cap-Vert qui bat le Ghana, qui pourtant, selon moi, est l'un des favoris de la compétition, avec Mohamed Kudus, qui je pense a de très belles choses à montrer. Donc faut voir, mais je pense qu'il y aura certaines équipes qui pourront jouer des cartes.
Philippe. Moi je dis, on en parlait dans mon Paris Sport avec Stéphane, je pense qu'il faut se méfier de ces premiers matchs. Hein. C'est comme un championnat d'Europe, comme une Coupe du Monde. Il y a des petits qui accrochent les gros sont un petit peu plus programmés pour aller un peu plus loin dans la compétition. Donc je pense qu'après on verra les principales équipes à l'arrivée, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte ou l'Algérie, ou même le Maroc qu'on attend. Donc se disputer la victoire finale. Mais méfiance, il y a toujours des grosses surprises sur les premiers matchs. Après, l'ordre devrait se rétablir.
Stéphane, tu as 30 secondes pour conclure.
Ouais, ben voilà, je pense un petit peu comme Philippe, on en a parlé tout à l'heure. Il y a toujours des surprises, surtout les premières journées. Après, ça va aller oui. Au crescendo. Il y aura peut-être un ou deux éliminés surprises et encore. Mais après, c'est rendez-vous en huitième de finale pour avoir vraiment le début de la compétition.
Merci Stéphane Desenclos, hein, à retrouver notamment via le quotidien du sport.fr, hein, un quotidien justement qui vous donne toutes les bonnes actus sport et notamment de foot. Quentin, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis allez-y, regardez Rond Central, hein, notamment ouais. Sur YouTube avec Quentin et toute sa team. Alfred, merci beaucoup de ta participation. Elhadj,
merci à toi.
Chakenza, bonne soirée à toi. Philippe, salut. Amadou, merci d'avoir été là, les amis. On va saluer Léonard, on va saluer Jason qui ont réalisé Au bout du foot. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Salut, ciao.